Notre prochain invité, c'est M. Aziz Fall. Aziz a réussi à se libérer. Finalement, on lui cède la parole tout de suite. À Walou, on le garde pour le dessert. Ça va comme ça.
J'adore le dessert.
Merci, Aziz.
Merci beaucoup. Excusez-moi de mon retard. Effectivement, j'ai un séminaire là-haut et je vais devoir y retourner, mais je tenais absolument à participer à cette importante table ronde. Pour à la fois expliciter, et on a effectivement très peu de temps dans le laps de temps qui est imparti, expliquer ce que nous faisons déjà depuis une vingtaine d'années dans l'affaire Sankara, où beaucoup les jeunes qui ont pris les rues à Ouagadougou scandaient Sankara, ça semble être une revanche de l'histoire. Mais il faut bien sûr comprendre les dynamiques, comme ça a été très bien expliqué par mon camarade, des dynamiques à caractère local, mais beaucoup plus gravement, des dynamiques qui touchent même l'ampleur de la mondialisation et le rôle imparti aux pays africains, et surtout la nature des régimes compradors que le régime Compaoré a très bien incarné dans les 30 dernières années, puisqu'en réalité, il s'agit d'un phénomène qu'il faut comprendre dans sa complexité. Je vais essayer d'expliciter à la fois le travail d'impunité que nous faisons et pourquoi est-ce que l'épisode révolutionnaire qu'a correspondu les trois années finalement de la révolution burkinabé, la seule et dernière révolution sur le continent africain, ont entamé un changement des rapports de production avec effectivement un modèle qui était calqué sur le modèle cubain, qui était probablement de nature volontariste, c'est-à-dire que l'élite, même si elle correspondait à une intelligentsia organique enracinée dans son peuple, était très en avance par rapport aux capacités de ce même pays de pouvoir répondre aux exigences d'une rupture avec ce que la mondialisation a imposé, c'est-à-dire aller vers la poursuite du mode néocolonial de croissance et surtout les politiques d'ajustement structurel. Thomas Sankara a incarné effectivement, il est mort comme Che Guevara, un personnage historique qui symbolise à la fois un réflexe panafricain, je ne dirais pas communiste, mais beaucoup plus de nature nationaliste, internationaliste, et qui a réussi, au-delà de la critique qu'on peut faire du volontarisme, à très très vite rompre avec la logique néocoloniale. Ceci est arrivé complètement comme un cheveu dans la soupe à un moment où tous les pays africains étaient soumis aux desiderata des changements du plan néolibéral, la question du remboursement de la dette. Vous vous rappellerez probablement de son discours épique à l'OUA, où ses pairs, très clairement, ne voulaient pas abonder dans son sens. Cependant, il avait réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2 ans et demi, reconnaissant les statistiques de la FAO, avec un boycott de la coopération internationale, avec un changement des comportements de la couche au pouvoir, c'est-à-dire une disciplinisation de l'élite qui a véritablement fait corps avec son peuple. C'était en fait une première dans la région. Ce qui fait que non seulement ce n'était pas un complot national, mais en fait c'était un complot international. Les recherches que nous menons montrent clairement, au-delà du travail juridique sur lequel je vais revenir, que lorsque Charles Taylor est exfiltré de sa prison de sécurité maximale aux États-Unis, où il avait dérobé quelque 900 000 dollars à la caisse des Libériens, il est envoyé en Libye. Il est envoyé en Libye, ce n'est pas un hasard, c'est parce que là se trouvent des sanctuaires prétendument de rébellion que Kadhafi abrite. Il fait la connaissance de Fode Sanko et de Blaise Compaoré. Et là, avec des parrains beaucoup plus importants, Feu et Adema, Oufoué Boigny, Guy Penn et François Mitterrand, est mis en place en fait un processus visant à un stratagème, non seulement de freiner la révolution burkinabé, mais de permettre la reprise du Libéria. Ici, il s'agit d'un immense scénario assez complexe où Charles Taylor a pu, d'une certaine façon, réussir à convaincre une partie de l'intelligentsia noire américaine du bien fondé de reprendre le Libéria de façon progressiste. C'est donc mis en place cet attentat, un attentat qui a été ourdi au sein même de la matrice du mouvement qui était en pleine recomposition. Il faut dire qu'il y avait déjà une crise à l'interne. Thomas Sankara avait compris les critiques que je venais d'adresser très rapidement et il voulait aller vers un parti de masse, vers des élections et défroquer même de l'armée, ce qui n'était pas non seulement du goût de l'essentiel de ses camarades. Un peu, si vous voulez, c'est l'image de D'Artagnan avec les trois mousquetaires, et les trois mousquetaires le trahiront dans cet événement sanglant. Il sera assassiné, son certificat de décès dira qu'il est mort de mort naturelle, en compagnie de 12 de ses camarades, et il sera enterré nuitamment avec des prisonniers qu'on a pris pour faire cette besogne. À cette époque, Blaise Compaoré est ministre de la Justice et son meilleur ami. Pendant 10 ans, ils ne diront rien. Aucune version sur cet attentat ne sera faite. Il a fallu attendre quelques mois de la fin de la prescription pour que notre groupe, le Grilla, puisse convaincre la veuve Mariam Sinka, qui est une des rares femmes sur le continent africain qui est constellée de martyrs, à avoir osé porter plainte contre cet édifice. Ce n'était pas seulement une armada de militaires criminalisés, c'était carrément l'édifice de la France-Afrique. Et elle ose porter plainte contre X et faux en écriture juridique. Nous épuisons quelques 5 années de procédure au sein du pays. Nous perdons de façon odieuse en Cour suprême pour 5 000 francs, à peu près une dizaine de dollars, alors qu'on avait payé 1 million de francs. Somme d'ailleurs à laquelle nous n'étions pas obligés de payer, puisque une des victimes, en l'occurrence un des enfants, était mineur et était donc dispensé. Mais ces nombreuses arguties étaient parmi les subterfuges que l'État parti a menés pour empêcher que la vérité ne se connaisse. À ce moment-là, il y a en même temps une criminalisation de l'État et un rôle de plus en plus important dans la France-Afrique, puisque non seulement le Sierra Leone et le Liberia ont été mis à sac, Compaoré s'est enrichi, une bonne partie de la catégorie des Ouagalais et des autres Burkinabés qui étaient la cheville ouvrière de la Côte d'Ivoire s'avère être à ce moment-là un réceptacle très important autour de la diaspora, d'une économie de prébande et de rente. Et très très vite s'organise en fait un dispositif qui vise à remplacer la Côte d'Ivoire, qui rentre en déliquescence, elle-même en lutte contre la privatisation de la caisse stable et toutes les mesures que la Banque mondiale faisait. Et donc très vite, on voit le rôle moteur que Compaoré va jouer dans la région. Il va écouler les diamants du Liberia par des filières internationales, au point même de pouvoir contourner l'embargo des Nations Unies contre l'UNITA en Angola. Et jusqu'au moment où on se parle, jusqu'à la Révolution, le Burkina vendait encore sur les places internationales du diamant sans en avoir à en produire. Cette capacité, en fait, que le Burkina va arriver, c'est très vite d'être un acteur moteur à la fois de la réfection des codes miniers, de la privatisation et de la libéralisation des systèmes économiques des pays, donc des pertes de souveraineté, et d'une économie d'accumulation prébendière qui va s'écouler dans toute la sous-région et qui va en plus s'acoquiner avec le glissement géopolitique qui est celui de la mondialisation, celui qui fait que l'Afrique, économiquement plus possible d'être propulsée par les pays de l'OCDE, glisse vers une géopolitique du chaos. Et Blaise Compaoré va faire partie de cela avec Sarkozy, avec Feu Kadhafi, de la mise en place d'un système basé sur le terrorisme international, des filières basées sur l'enrichissement par les kidnappings, par les trafics différents, et surtout son rôle de médiateur, ce qui a pu lui faire jouer un rôle tout à fait extraordinaire dans tout un triangle, égalé seulement par Idriss Déby, bref, une catégorie de supplétifs très important. Lorsque ce système que j'ai rapidement caricaturé et qui a été maintes fois dénoncé par différents rapports a été exposé, évidemment, les autorités qui le soutiennent, autant aux États-Unis, au Canada, qui en profitaient, il faut dire que les rares au Canada, les juniors au Canada ont profité de l'embellie minière. Des fortunes se sont faites ici grâce à Blaise Compaoré, qui a été promené quelquefois en hélicoptère ici au Québec. Eh bien, vous savez, c'est ce système-là qui était dénoncé et contre lequel nous luttions. Lorsque nous avons épuisé tous les recours, le Burkina avait fait l'erreur de ratifier le pacte et le protocole des Nations Unies, et c'est en vertu de cela que nous l'avons amené au Comité des droits de l'homme, avec notre collectif d'avocats, une 20aine à l'époque, et ça a créé un précédent au système des Nations Unies, puisque non seulement ça a été recevable, mais la veuve a obtenu des droits, notamment la rectification du certificat du décès, la reconnaissance du lieu de sépulture, une compensation et surtout une explicitation de droit d'enquête. Très intéressant, ce qui se passe, c'est que Christine Chanet, à l'époque, les experts et l'actuel président Cafando se retrouvent au moment même où le Comité des droits de l'homme nous reprend notre victoire. Le président Cafando, à cette époque, est à New York et d'habitude, c'est au niveau de Genève que ces questions-là sont réglées. L'État parti considère que les demandes qui ont été formulées par le Comité des droits de l'homme, il peut les honorer. Il enlève le mot naturel du certificat de décès, donc il est juste mort. Et ils disent qu'ils vont donner la somme de 600 000 dollars à la veuve. En fait, c'est une erreur de typo. C'était 60 000 dollars qui correspondait d'ailleurs à la pension de retraité de Mariam Sinka. Malgré les rectifications de nos avocats, les experts ont fait comme si c'était 600 000 et ont considéré que l'État parti, pauvre, enclavé, avait fait déjà un grand effort et était humilié et a clos le dossier. C'est alors que nous avons entamé deux procédures, une sur séquestration, c'est-à-dire prouver que Thomas Sankara n'est pas dans une de vos prisons, et la deuxième qui était de prendre l'ADN des deux enfants, Auguste et Philippe, et de demander ce qu'on appelle une requête en assignation pour pouvoir identifier cette tombe, puisque l'ONU nous donnait ce droit. Pendant les trois dernières années, cette chose a été complètement bloquée. À l'issue de la révolution, c'est-à-dire au changement brutal qu'a été cette insurrection populaire, je crois que le mot révolution est un peu galvaudé, il s'agit d'une insurrection populaire, principalement par des jeunes urbanisés, sankarisés pour la plupart, qui comprennent effectivement la nature comprador de ce régime et qui ne voulaient surtout pas d'un énième mandat. Eh bien, ces jeunes, aujourd'hui, sont un peu notre caution assurance, parce que très rapidement, lorsque le pouvoir chancelle, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas contrôler un État. Et donc, comme le disait notre camarade, effectivement, il y a déjà un réflexe militarisé très très fort. L'inclinaison, c'était d'aller vers les militaires qui semblaient être les plus responsables. Le problème, c'est que le militaire choisi, Zida, est la personne qui est en charge du dispositif de l'Africom dans la région. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique, nous montrons la façon par laquelle le dispositif de redéploiement de l'OTAN, sous l'égide des États-Unis, utilise les armées africaines pour leur bastion militarisée. Et le Burkina fait partie pièce maîtresse. Il y a une base dans ce pays avec des drones, etc. Et Zida fait partie, comme bien d'autres, des états-majors, ce n'est pas propre à lui, l'essentiel des états-majors africains, plus de quarantaine de nos états-majors ont été cooptés par ce processus. Donc c'est avec un sentiment mitigé que nous avons vu arriver le président Kafando et M. Zida au pouvoir. Poussé par la ferveur populaire et évidemment le sentiment qu'une page devait être tournée, ils ont tenu le même discours que tenait la rue, à savoir que l'affaire Sankara devait être réglée, que la veuve devait connaître le lieu de sépulture, que ce dossier devrait être ouvert et que l'affaire Zongo en était aussi à devoir être ouverte. Dans le communiqué que nous avons émis hier, nous avons fait état de propos pour le moins ambigus, contradictoires du chef de l'État qui reconnaissait que les perspectives d'extradition de Compaoré n'étaient pas à l'ordre du jour, que l'affaire elle-même n'était pas à être ouverte, qu'on pouvait ouvrir le lieu d'exhumation, mais qu'il n'était pas forcément inclus qu'on aille vers l'ouverture du dossier. Ce qui serait évidemment une grande déception et un recul spectaculaire vis-à-vis des attentes de cette population. Pour nous, ce qui est très très important dans cette question, et je sais que tous les membres de notre groupe pensent de la même façon, c'est que le cas Sankara, c'est un des nombreux cas d'impunité, que ce soit Lumumba, Cabral, etc., de tous les Africains qui ont osé s'interposer contre la colonialité, contre la poursuite de ce mode néocolonial de croissance et surtout les formes différentes hybrides que l'impérialisme fait revêtir à nos régimes politiques, qui se sont gangrénés. Je pense que les travaux de Achille Mbembe et bien d'autres sont relativement clairs sur la cruauté de nos chefs et nos dirigeants. Mais ce qui est très important, c'est la porosité du droit international, c'est-à-dire qu'il n'existe pas dans les dispositifs actuellement du droit international d'éléments qui puissent résoudre des enjeux comme ceux-là qui nous concernent. Et pour nous et nos générations, moi je commence déjà à être vieux, mais pour les jeunes qui sont aujourd'hui à la tête de ces mouvements et qui espèrent un changement progressif, il faut qu'ils comprennent que seule une perspective internationaliste, la redécouverte des valeurs de l'internationalisme, peuvent permettre d'infléchir la marche, hélas, chaotique de cette mondialisation vers les aspirations de nos peuples. Pour cela, évidemment, il faut redécouvrir Sankara. Nous avons essayé par différentes façons de faire des compilations d'ouvrages. Je vous appelle à regarder si... tu as encore quoi, 3 minutes, à peu près.
Un genre de compromis entre les deux.
Ça s'appelle 2 minutes. Donc, j'en prendrai qu'une. Bref, tout ça pour dire que nous sommes effectivement dans une situation où nos avocats, les attentes de la population, des milliers et des milliers de gens qui ont signé ces pétitions, qui veulent la justice pour Sankara, savent que si la page de l'impunité n'est pas tournée, ces situations vont perdurer. On est dans une situation de chantage. Ce que le président Kafando dit de façon ambiguë tient du fait très simple, que dans le pays voisin, qu'il a lui-même déstabilisé avec ses sbires, Compaoré est toujours dans le dispositif de la France-Afrique, qui n'est toujours pas morte, que la capacité de nuisance de ces gens est extrêmement puissante, que l'ordre mondial, jusqu'à preuve du contraire, cautionne et soutient ce genre de régime, et que nos mouvements de démocratisation ne peuvent répondre qu'à nos propres repolitisations, la politisation démocratique de nos masses, l'organisation, et nous savons que nous allons gagner, ce n'est qu'une question de jour et de temps. Merci.
Alors, si vous voulez plus d'informations sur ce dont Aziz a parlé, Aziz est le directeur du GRILA. Alors, il faut aller sur le site du GRILA. Ça.